Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 161, Mariam Tolordava, ah, la Géorgie, adieu, va. Chers amis, bonjour, mais quelle beauté, quel beau pays, la Géorgie. Depuis 2023, c'est un pays qui est candidat à l'adhésion à l'Union européenne, avant de se faire avaler par la Russie, peut-être, bon, non. Mais vous savez que notre émission, vous l'avez bien connue sur Radio Judaïque à Strasbourg, se veut uniquement culturelle, littéraire, humoristique et parfois blasphématoire, sans contrainte ni personne. Alors, on ne parle donc ni d'actualité, ni de religion, ni de politique. Mais à Strasbourg, il y a beaucoup de Géorgiens. Il paraît que c'est la plus grande communauté géorgienne, c'est à Strasbourg. Vous prenez le tram et vous entendez parler en géorgien. Oui, moi qui suis né le jour des funérailles du géorgien Joseph Staline, cela m'amuse. Et notre invité, en cette belle rentrée universitaire, c'est une étudiante géorgienne, Mariam Tolordava. Bonjour Mariam Tolordava.
Bonjour.
Alors, je devrais dire géorgienne alsacienne, parce que, alors pas seulement pour la rime, hein, mais parce que lorsqu'on arrive à Strasbourg, on se sent tout de suite chez soi, à la maison. Oui.
Oui, oui, totalement. Je suis arrivée à Strasbourg il y a 3 ans. C'était pour mes études. On a déménagé avec toute ma famille. On voulait avoir un nouveau départ. Avant ça, on vivait en Normandie. Donc oui, je constate aussi, et toute ma famille constate, qu'il y a une différence par rapport à la Normandie. Et oui, on se sent complètement chez nous.
Voilà, c'est très bien. Alors, vous êtes étudiante donc, à Strasbourg, et c'est sympathique sur le campus
Oui, alors je suis étudiante en histoire de l'art dans la faculté de sciences historiques et notre campus, c'est au palais universitaire. Donc je peux vous dire que c'est un bâtiment historique qui est très beau et enfin, on a l'impression d'être dans un conte de fées.
Oh.
Oui, c'est très beau.
Strasbourg, un conte de fées. Alors il y a le Hans im Schnockelor et puis peut-être il y a une fée. Bon, on sait qu'à Strasbourg, il y a 180 nationalités différentes chez les étudiants. Bon, ça, c'est formidable.
Et oui, c'est vrai. On a des étudiantes, on échange, mais pas seulement. Il y a des personnes qui sont dans la même situation que moi, parce que nous sommes arrivés en France il y a 7 ans, à peu près. Donc, nous vivons ici depuis 2018.
Voilà. Et donc, depuis 2018, vous êtes arrivée sans parler un seul mot de français. Et maintenant, vous parlez mieux qu'une barinoise, non?
Je vous remercie. Oui, c'est vrai que je ne parlais pas du tout français.
C'est une blague hein, pour les barinoises. Hein. On les aime bien aussi, mais je suis barinois. Donc, voilà. Donc, comment est-ce que vous avez fait pour apprendre aussi bien le français, à part travailler?
Alors, j'ai quand même intégré une classe de préparation qui s'appelle EPO2A quand j'étais en classe de 4e. Mais je ne peux pas vraiment dire que c'était cette classe qui m'a vraiment aidée à améliorer mon français. Donc le fait que je parle aussi bien aujourd'hui le français, c'est dû au contact avec mes camarades, avec les professeurs. Donc je pense que pour des personnes qui arrivent en France, des étrangers qui arrivent en France, le meilleur moyen pour apprendre, c'est avoir du contact avec les Français, travailler, étudier. Donc les cours de français, oui, c'est un plus, mais c'est vraiment par le contact que ça on s'améliore en français.
Et on écoute la radio en français, on regarde la télévision.
Ah oui, ça c'est très important de regarder et écouter la radio. Mm-hmm. Parce que moi je sais que l'anglais, j'ai pas appris l'anglais à l'école non plus. Et un jour je me suis réveillée et je me suis dit, mais en fait je parle anglais et je l'ai appris en regardant des séries. Des séries Netflix, tout simplement.
Donc oui, c'est très important. Le truc que je fais là, je dis ça à nos amis auditeurs sur Radio Judaïque à Strasbourg. Bon, j'ai appris un peu l'espagnol. Bon, je parle l'anglais et l'allemand. Et l'espagnol, des films espagnols avec les sous-titres en espagnol. et de mettre les sous-titres. Ça, alors, en plus, c'est pas toujours les mêmes mots qui sont prononcés, et ça oblige l'esprit à emmagasiner, à faire un peu comme une éponge du vocabulaire. Oui, c'est ça avec vos séries Netflix que vous avez appris l'anglais ?
Alors, oui.
Alors, vous avez dû apprendre les gros mots en anglais, alors.
Parce que, oui, en partie.
Fuck.
Oui. Oui, c'est vrai. Mais je considère, même à mon arrivée en France, j'avais un très bon niveau en anglais. Mais oui, c'est vrai que j'ai dû rencontrer quand même des difficultés à cause de l'accent. Beaucoup de Français ont accent en anglais, donc je ne comprenais pas forcément très bien au début. Et il n'y a pas beaucoup de Français qui parlent anglais. Donc ça, je ne pensais pas, mais c'était très handicapant. Mais quand même, c'était avec l'anglais que je me suis débrouillée en arrivant.
Voilà. Alors... vous rencontrez donc d'autres étudiants et vous parlez avec eux à Strasbourg en français ?
Oui, en français, oui.
Quand on est étudiant à Strasbourg, on doit parler le français, je suppose, non ?
Oui, pas forcément, non,
parce qu'il y a quand même des spécialisations. Alors, c'est peut-être après le...
Oui, ça dépend. Il y a des personnes qui sont en échange, par exemple,
oui,
ils sont plus à l'aise en anglais.
Oui.
Ils parlent aussi français parce que nos cours sont principalement... toutes nos cours sont en français. Donc oui, on est un peu obligé de parler en français. Mais sinon, il y a des étudiantes qui se sentent plus à l'aise de communiquer en anglais. Et c'est tout à fait normal. Et
oui, on s'adapte. Ça devient une langue tout à fait obligatoire, comme vous dites.
Oui, je
sais que pour faire un doctorat en sciences biologiques et tout, ça, on l'a fait en anglais, même si on est français, à Strasbourg. Voilà. Alors, est-ce que vous savez que l'anglais n'est plus une langue officielle dans l'Union européenne ?
Ah oui.
Pourquoi ? Parce qu'à cause du Brexit,
à partir du
moment où les Britanniques sont sortis, et comme, l'application du traité de Maastricht, chaque pays pouvait dire, voilà, ma langue officielle, c'est le français, l'allemand. Et donc, les Irlandais avaient pris le gaélique, pour question un peu nationaliste et culturelle. Les Maltais avaient dit, nous on parle maltais, même s'il y a très peu de Maltais qui traduisent du portugais ou du letton en maltais. Et donc, du coup, plus d'anglais. Et donc, ça posait un énorme problème, ne serait-ce que juridique. Et la Commission européenne, qui a toujours un tour dans son sac, ils ont dit, OK, l'anglais n'est plus une langue officielle, mais c'est une langue de travail. Voilà. Et c'est comme ça... que la Commission européenne a retourné le truc pour faire que maintenant, un Polonais qui parle avec un Bulgare, il ne parle pas en russe, il parle en anglais. Et vous parlez le russe ? Vous avez appris le russe en Géorgie quand vous étiez enfant ?
Alors, le russe, c'est une langue obligatoire. C'est exactement comme ce qu'on a en France avec les L2, que ce soit espagnol ou allemand. Donc oui, c'est une langue obligatoire à apprendre, mais je parle le russe en effet. Je comprends, je parle un petit peu moins bien qu'avant, comparé à avant, mais en tant que géorgienne et surtout des situations actuelles en Géorgie, on évite de parler en russe.
Vous avez une réticence à parler en russe ? Mais la Russie aussi, c'est pas seulement Poutine, c'est Tolstoï, c'est Dostoïevski, c'est Tchekhov,
c'est
Turgenev, en bon petit français, c'est quand même un pays formidable pour ça, la Russie.
Oui, on peut pas dénier la culture à la Russie, mais on a des très bonnes traductions. Donc,
oui, guerre et paix en français, oui, d'accord.
Oui.
Et donc, il y a quand même un blocage. Vous connaissez l'histoire de l'Alsace, certainement, puisque vous êtes là depuis 3 ans. En Alsace, ma grand-mère, elle a changé 4 fois de nationalité. Elle est née allemande, elle est française en 18, de nouveau allemande en 40, 45, française. Donc, elle parlait les deux langues, beaucoup mieux l'allemand que le français. Mais ce qu'elle... à chaque fois, on leur disait « Ah, mais c'est chic de parler français ». Et même pendant la guerre, la dernière, c'était interdit de parler en français. Il fallait parler que l'allemand. Puis après, en 1945, balayons tout ce qu'il y avait et il faut reparler que le français. Donc, il y a une sorte de diktat par rapport à la langue. Mais, et c'est là le but de ma question, Une langue, ce n'est pas seulement la communication, c'est une culture. Vous êtes d'accord ?
Tout à fait.
Alors, quelles sont les langues que vous parlez, à part le, le français, le russe, l'anglais ?
Le géorgien, oui,
c'est ouais, une bien langue. Bien sûr, le géorgien, excusez-moi, oui, bien sûr, le géorgien, ouais.
Mais surtout,
langue.
Ce qui est intéressant avec le géorgien, c'est que ça appartient à une famille, ça n'appartient à aucune famille, justement, linguistique. Même l'écriture est très différente des autres familles.
C'est pas du cyrillique, c'est...
Non, pas non. Du tout. Ça, on a nos propres lettres. Vous pouvez regarder sur Internet, mais c'est, mm-hmm. C'est
avec
très
une
beau.
Une trentaine de l'alphabet compte oui, plus que les 26 lettres.
Oui, oui, c'est ça. On a des lettres qui sont presque imprononçables pour les Français. Oui, notre alphabet est grand.
Voilà. Alors, prononcez-moi des mots imprononçables. Ou des lettres imprononçables.
Alors, si vous pouvez dire ça, parari tranchirinops.
Très bien.
Ça veut Est-ce dire, que vous pouvez répéter
ça, je peux vous traduire, ça veut dire je suis contente d'être là.
Bien sûr. Oui, c'est...
Non, c'est pas ça.
Non, pas du tout. C'est un exercice pour la langue, mais on utilise souvent, on taquine les étrangers avec ça, parce que c'est en effet très difficile de prononcer la lettre R.
Ah, c'est comme si je vous disais, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches.
Oui, c'est ça.
Vous connaissez cette phrase
oui. Bah oui,
vous
l'avez. Et je suis incapable de le dire.
Oui, alors il y en avait un autre, alors je le dis par cœur, je ne l'ai pas sous les yeux. L'abiscouti, le grain smouti, oui, l'abiscou et le grain smou. Donc je vais le dire doucement, ouais. L'habit se coud-il et le grain se moud-il. Puis un autre aussi qui est très drôle, alors écoutez, chers auditeurs de Radio Judaïca à Strasbourg, tadori, tadera, tadori, tantan, tadera, tanté, tadori, tantan, tanta, tadera, tanté, tadera, tanté, tata, tadori, tantan. Ce qui en bon français, c'est un tas de riz et un tas de rats. Le tas de riz, tantan, tanta, le tas de rats, tanté, et le tas de rats, tanté, tata, le tas de riz, tantan.
Impressionnant.
Alors, si vous écrivez votre journal intime, votre petit journal, aujourd'hui j'ai rencontré un jeune homme qui est si beau et tout, donc vous l'écrivez dans quelle langue ?
Je ne prendrai pas de risque que mes parents découvrent, alors plutôt en français.
Oui.
Mais ça m'arrive d'écrire aussi en géorgien. S'il y a des moments où je sens que certaines émotions ou états seront préférablement mieux exprimés en géorgien. Dans ce cas-là, j'écris en géorgien, mais c'est vraiment au sentiment... oui, ça dépend vraiment de l'état actuel.
Alors, un jour, vous serez une grande écrivain, certainement. Vous écrirez dans quelle langue, pensez-vous ? Vous allez rester au géorgien ? Où, parce qu'il y a des écrivains célèbres, notamment roumains, je crois que c'est Ionesco, Cioran, Nabokov aussi a écrit, a changé de langue. Enfin, voilà, c'est difficile hein, de parler, d'écrire un roman dans une autre langue. Ce n'est pas la même chose qu'un discours. Vous écririez la langue vernaculaire, comme on dit, c'est ça ?
Oui, je suis arrivée en France donc, quand j'avais 13 ans et mon niveau de géorgien est resté à peu près pareil. Donc je sens qu'avec l'exercice de français tous les jours, je sens la dégradation du géorgien aussi à côté. Mais je pense mon éloquence par écrit serait mieux en français. En géorgien, parce que géorgien, déjà, c'est l'un des langues les plus compliquées, avec une grammaire très complexe, pire que français.
Ou que le polonais, qui a neuf conjugaisons,
Oui. Et oui, plutôt en français, mais oui, ça dépendrait aussi le genre. S'il arrive qu'un jour j'écris quelque chose, je pense que ça dépendrait vraiment du sujet traité. Est-ce que ça serait quelque chose par rapport à l'histoire de la Géorgie ou des choses qui sont en lien avec la Géorgie ou est-ce que ça serait quelque chose lié à la France ? On verra.
D'accord. Alors, quelles sont les matières que vous étudiez en histoire de l'art ?
Alors, on a beaucoup de matières qui sont très intéressantes. On a des modules qui combinent les deux cours. Donc, on avait, par exemple, cette semestre... l'image dans le contexte religieux. Donc, on a étudié l'art byzantin et l'art musulman, les arts figurés dans l'art musulman, qui était très intéressant. Mais aussi l'art contemporain avec l'architecture et le design allemand au 20e siècle et l'abstraction, par exemple. C'était une cours de cette semestre.
D'accord. Et alors à Strasbourg, vous avez une autre école qui est magnifique, qui s'appelle la cathédrale de Strasbourg. Est-ce que vous êtes une fanatique de la visite de la cathédrale de Strasbourg ?
Alors, j'habite en ville. Donc, je me retrouve souvent devant la cathédrale, mais à chaque fois, il faudrait que je prenne mon temps et j'observe cette cathédrale, ce qui est magnifique. Mmh. En fait, en plus, je suis arrivée en France, plutôt à Strasbourg, il y a 2-3 ans. Et quand je suis arrivée, j'étais fascinée. Et puis, en fait, on ne se rend pas compte, en tant que Strasbourgeois, à quel point on a eu cette chance d'avoir cette beauté visuelle.
Absolument.
En ville.
Bon, alors si vous écoutez Radio Judaïque à Strasbourg, vous entendrez la voix de Robert Becha, hein, à ce micro, qui est un prof d'histoire, je crois, mais qui est un fanatique, notamment de la cathédrale. Il fait des visites guidées, et je vous assure, bon, c'est formidable, c'est génial. On n'a pas besoin d'être... C'est pas une histoire de religion ou quoi que ce soit, hein. C'est... Vous visitez la cathédrale, il va tout vous expliquer, il va vous raconter... Et c'est quand même absolument fabuleux ce que les hommes ont fait. Voilà. Donc, je vous recommande.
J'ai aussi l'occasion de voir Notre-Dame de Paris.
Oui.
Visite à l'intérieur, mais après la rénovation. Et je trouve... Donc, c'est une église magnifique, mais je trouve que c'est quand même pas au même niveau que la cathédrale de Strasbourg.
Merci.
La monumentalité, les décors, c'est tout un autre monde. Une autre histoire aussi.
D'accord. Alors, Mariam Delordava, donc étudiante géorgienne, est-ce que vous avez la nostalgie de Zougdidi ? Alors, Zougdidi, c'est une ville en Géorgie, hein, donc elle fait à peu près 60 000 habitants. Elle n'est pas loin de la mer Noire. Vous alliez vous baigner dans la mer Noire ?
Oui, oui, c'était pas très loin. Oui, on arrivait. Oui, on allait chaque été. Donc, c'était pas avec la voiture. Oui. C'est une mer très chaude et très, très agréable. Oui.
Et vous avez encore de la famille là-bas ?
Toute ma famille est là-bas.
Ah oui.
Et donc, en France, on est arrivé seulement à une famille. Donc, moi, mon père, mes frères et sœurs, avec ma mère. Et la reste de ma famille, mes cousines, mes cousins, grands-parents, ils sont restés en Géorgie.
Ah oui, donc vous retournez de temps en temps, l'été, en vacances ?
On essaye, oui. J'ai été en Géorgie... il y a 2 ans, en été. C'était magnifique. Puisque je n'étais pas retournée depuis 7 ans. Et là, c'était une expérience qui... Ça m'a fait redécouvrir des choses. Et donc, ce sentiment de nostalgie aussi, j'ai été vraiment rassasiée par...
Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous allez retourner vivre en Géorgie ou vous allez rester en France ? Parce que vous êtes française maintenant.
Non, j'ai toujours pas la nationalité, mais je me considère d'une part française. Mais oui, c'est une question que je me pose assez souvent. Je me dis, est-ce que par rapport à ma carrière, qu'est-ce que je veux faire exactement ? Est-ce que je peux faire quelque chose en sorte que je peux combiner les deux pays ? Parce que c'est quand même...
Vous pourriez devenir présidente de la République géorgienne.
Oui, ça, oui, c'est une possibilité que
j'envisage. Alors, rappelez-moi son nom. Il y avait un étudiant de Sciences Po géorgien.
Salomé Zourabichvili.
Voilà, oui. Qui est devenu président de la Géorgie. Et il était à Sciences Po Strasbourg. Bon, oui, je sais, on ne prononce pas trop son nom parce qu'il est en prison, je crois, maintenant.
Alors, deux présidents avec un passé en France. Donc, je pense que celui de qui vous parlez, c'est Saakashvili, Mikhail Saakashvili, c'est lui qui est en prison en ce moment.
Oui.
Mais on a aussi Salomé Zourabichvili qui avait la nationalité française. Elle a grandi depuis... si je ne me trompe pas, elle est née en France. Et donc, oui, elle est devenue aussi présidente. Donc,
Ben voilà, vive la France en Géorgie alors.
Oui.
Voilà. Et vive la Géorgie en France aussi. Alors justement, entre la France et Zougdidi, il y a un lien pittoresque. Est-ce que vous savez lequel ? Avec la France et Zougdidi.
Oui, ça c'est la famille de Napoléon Bonaparte.
Voilà.
Oui.
Alors j'ai lu ça avant de vous accueillir. Oui, alors racontez-moi cette histoire.
Oui, alors c'est la nièce de Napoléon qui s'est mariée à...
Le petit-neveu.
C'est le neveu.
Le petit-neveu, oui.
Oui.
Qui s'appelait, vous savez comment ?
Je ne sais pas.
Achille Murat.
Achille Murat.
C'était le... En fait, il l'avait adopté, c'était son général Murat, ou maréchal, oui. Et ?
Oui, et oui, donc on a un palais à Zoukdidi qui a été... qui est très magnifique, c'est une palais à visiter, et c'est un musée aussi. Et c'est là où on conserve une des trois masques de Napoléon.
Funéraire, oui.
C'est ça, oui.
Voilà. Et Achille Murat, lui, il a épousé une princesse géorgienne qui s'appelle Salomé Davidovna. Ah, j'ai trouvé ça dans l'encyclopédie Universalis. Voilà. Mm.
Et donc, Davidovna, mais plutôt ça, c'était à l'époque l'Empire russe, je pense, parce que c'est... Davidovna, c'est...
Alors, c'était le royaume de la Mingrélie.
Mingrélie.
Voilà,
oui.
C'est ça.
Oui, c'était les Dadiani.
Voilà.
Oui.
Alors, chers auditeurs aussi, si vous avez encore du papier à la maison, des encyclopédies, des dictionnaires et tout, c'est absolument formidable parce que j'ai voulu chercher ce petit détail. J'ai passé une heure à lire plein de choses sur la Géorgie parce que c'est différent de chercher sur Wikipédia, enfin sur Internet, où vous cherchez un truc, vous le trouvez, puis c'est fini. Donc là, quand vous tournez les pages d'un livre, c'est absolument formidable, vous voyagez déjà. Voilà. Alors, c'est aussi une ville qui est connue pour le commerce du thé. Est-ce que vous buvez du thé ou...
Alors, je savais pas forcément que c'était...
Ah bah c'était, voilà, c'est oui. Ce que j'ai lu, que c'était oui. La ville du commerce du thé, donc Zoukdidi. Alors peut-être que vous buvez du Gewürztraminer maintenant. Est-ce que vous aimez le vin d'Alsace ?
J'ai pas vraiment eu l'occasion de goûter, mais je pense que ça doit être pas mal.
Ah oui, non, parce que les vins géorgiens sont connus. C'est pour ça que je vous pose la question.
La Géorgie a une histoire de 8000 ans de la vinification.
Donc, oui. Les plus vieilles bouteilles de vin sont géorgiennes.
Oui, voilà. Parce qu'on a une culture du vin qui consiste à les conserver dans les jarres d'argile. Et oui, c'est une des techniques de vinification le plus vieux sur la Terre.
Alors, le plus vieux et aussi, autre chose, c'est le vote des femmes qui, en Géorgie, c'est un des pays où ça a été le premier pays où les femmes ont eu le droit de voter.
Oui, en effet. Après l'indépendance de la Géorgie, en 1918, par l'Empire russe, en fait, la Géorgie a mis en place une nouvelle constitution et c'est aussi le début d'une constitution moderne et une démocratie moderne de Géorgie. Et donc, en fait, le 26 mai, donc la journée de l'indépendance tous les ans, donc c'est même à cette occasion que je vous ai rencontré. Et donc, oui, les femmes, donc on a fait une constitution qui était très innovante pour l'époque, même comparée à la France, où on avait...
La France, c'est seulement 45. C'était le 21 avril 1944 qu'il y a eu le décret de De Gaulle.
Et la première vote était en 1945.
En 1945,
oui, c'est ça. Oui, alors que la Géorgie, c'était à partir de 1918.
Oui, ouais. Bravo. Écoutez, on va tous aller en Géorgie, on a vraiment envie. Alors là, vous avez mentionné, effectivement, il y a eu la fête nationale de la Géorgie célébrée à Strasbourg, où j'ai eu l'honneur d'être invité. C'est comme ça, effectivement, que l'on s'est rencontré. C'était l'épisode numéro 161 de Loul. Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïka Strasbourg, Mariam Tolordava. Ah, la Géorgie, adieu, va. Bon, alors ça, c'est juste une blague pour la rime, une rime rigolote. Adieu, va, pour vous souhaiter une bonne navigation et virer de bord, vent devant. Alors, mademoiselle Tolordava, parce que je pose toujours une question avant de finir, mademoiselle géorgienne, vous êtes à Strasbourg, donc là, on a bien développé. Est-ce que vous vous sentez européenne ?
Oui. Pourquoi je me sens européenne ? C'est parce que déjà, vu que je suis géorgienne, on a une culture qui est très européenne, on a une passé européenne, les valeurs démocratiques qui sont très proches de l'Europe. Donc je trouve que ces valeurs me font déjà sentir européenne, mais le fait que je vise ici à Strasbourg, la capitale européenne, je pense que c'est l'un des raisons pourquoi je peux dire que je suis européenne.
Bravo, merci beaucoup. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi sur Radio Judaïque à Strasbourg. La semaine prochaine, une autre aventure insolite, sans contrainte ni personne, à la technique Thomas Marinelli. Et mon nom est Ambroise Perrin. Two fellows meet.